RTL, il est 12h30.
RTL.
Je m'appelle Va chercher. Je suis épagnol du côté de mon père et breton du côté de ma mère. Mon oncle québécois est né dans le Labrador, dans la province de Terre-Neuve, où il est devenu berger. Au contraire de mon cousin Jack Russell Crowe, qui lui est devenu boxeur dans le Yorkshire.
Le journal inattendu.
Ça brille ?
Oui, ça brille. Je nettoie, j'astique. Ça me vide la tête.
Et c'est quoi cette odeur ?
Ça, c'est du vinaigre blanc. D'ailleurs, il faut que t'arrêtes d'acheter toute sa merde. Hein. C'est beaucoup moins efficace, en plus, qu'ils disent.
Mais c'est une caméra cachée ?
Non, c'est du vinaigre blanc. C'est ça que je te dis.
Pour retourner, j'ai besoin d'avoir un cadre. J'ai besoin d'avoir quelqu'un de solide, qui a une vision. Sinon, ça devient n'importe quoi, c'est l'anarchie. Et dans l'anarchie, on ne crée pas grand-chose.
12h30, 13h30.
Oui, donc Stéphane, comment tu te sens à quelques minutes du départ ?
C'est sûr que c'est un avantage de partir en pole position, mais par contre, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe derrière.
Ça va aller ?
C'est-à-dire que j'ai pris 3 Red Bull, et le Red Bull, comme vous le savez, a une tendance à, je dois dire, modifier certains comportements. Donc il est probable que nous allions droit dans le mur durant cette course.
Allez Stéphane, bonne chance et bonne course.
Le journal inattendu de Stéphane de Groot avec Vincent Parisot sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Absurdie. Bonjour Stéphane de Groot.
Bonjour Vincent.
Merci d'occuper pour une heure ce fauteuil de rédacteur en chef du journal inattendu entre deux représentations d'un amour de jeunesse. C'est la comédie d'Ivan Calberac que vous interprétez au Théâtre de la Renaissance à Paris avec notamment Isabelle Gélinas et Olivia Cotte. On va bien sûr parler de cette pièce, mais pas que. On va parler par exemple de l'art à Molenbeek, ce quartier de Bruxelles qui ne fait pas souvent parler de lui en bien, en tout cas chez nous, en France. Reportage magnifique tout à l'heure. Reportage inattendu. Au programme également, évidemment, votre carrière, vos débuts entre les planches et les circuits. Votre invité, André Manoukian, qui vous doit beaucoup, paraît-il. Tiens, je pense qu'il arrive. En tout cas, il sera dans le studio ici même à 13h. Et puis, comme vous connaissez bien cette maison, parce que vous avez accompagné dans le passé Stéphane Bern, ici même, et bien là, vous êtes un petit peu l'arroseur arrosé, parce que on va reprendre votre jingle de l'époque pour vous laisser vous-même vous tirer le portrait.
Le portrait. Stéphane de Groot.
Le portrait, très portrait. Alors je suis content d'abord d'être là. Je crois que je suis Stéphane de Groot. Quand je dis je crois, c'est parce qu'on met du temps à devenir ce qu'on a envie d'être. Et que ça fait un moment que je me cherche. Je commence à me trouver. Je me suis caché dans des recoins d'activités différentes, que ce soit la course automobile, acteur. Je ne sais pas si je vais arriver quelque part un jour, mais en tout cas j'y vais. J'y vais avec en train, en voiture même aussi. C'est toujours important d'aller quelque part et j'aime bien me faire surprendre par les endroits où je me trouve. Aujourd'hui, je suis ravi d'être là et je me présente à vous, mais je ne sais pas très très bien qui je suis pour être très honnête. Voilà. Donc c'est une quête permanente.
On va essayer de le découvrir. Ce qui est certain, c'est que ce sera inattendu. Jusqu'à 13h30 sur RTL. On commence par les infos. On va parler automobile. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le bilan de la sécurité routière pour 2019. Chiffre historiquement bas après une nouvelle légère baisse l'an dernier. 3239 tués sur les routes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en profite pour défendre les 80 km/h. Le deuxième avion en provenance de Wuhan en direction de la France a quitté la Chine. À bord des ressortissants français, mais pas que. On ne connaît pas la destination de l'appareil. En tout cas, ceux qui ont été rapatriés hier, 180 Français, ont passé leur première nuit à l'isolement à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Le Royaume-Uni hors d'Europe, c'est fait depuis minuit. Quels que soient les obstacles, nous allons réussir, assure Boris Johnson. Nous, on va voir ce que ça change pour nos vacances en Angleterre. La disparition de la reine du suspense, Mary Higgins Clark, après avoir connu le succès tardivement, elle était quand même devenue l'écrivaine la mieux payée au monde. Et puis le sport, le football, Rennes consolide sa troisième place, le PSG accueille Montpellier à 17h30. Et en tennis, la jeune Sofia Kenin, âgée de 21 ans, a remporté l'Open d'Australie, son premier grand chelem. Enfin, le temps, Valérie Quintin, qu'est-ce que ça donne ?
Ça donne quand même d'assez bonnes choses. On a une première salve de pluie qui a traversé le pays dans le courant de la matinée. On a pas mal de pluie alors qu'il est encore sur l'Alsace ou encore en Lorraine, un petit peu moins en région lyonnaise, de la neige dans les Alpes au-delà de 2000 mètres. Et à l'arrière, figurez-vous que les éclaircies prennent le relais. On va avoir un petit instant de bonheur avant qu'une nouvelle dégradation n'arrive en fin de journée par l'ouest. Donc entre deux, on peut espérer du soleil et surtout des températures très très douces. 12 degrés à Lille cet après-midi, 13 à Brest et Strasbourg, 14 à Paris et Lyon, 15 à Clermont-Ferrand, 16 pour Bordeaux, Toulouse et Marseille, et un très beau 19 à Perpignan.
Voilà, et vous savez que le samedi, vous pouvez aller déjeuner dès 12h35, chouette, parce que c'est l'invité ensuite qui fait la météo de 13h.
C'est ça.
Ça sera Stéphane de Groot, donc tout à l'heure, la météo.
Le journal inattendu sur RTL.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a donc dévoilé ce matin le bilan de l'année 2019 sur les routes. 3239 personnes y ont perdu la vie. Un chiffre historiquement bas, a-t-il souligné. En fait, il s'agit d'une très légère baisse de 0,3% selon la sécurité routière. Ça représente 9 décès de moins qu'en 2018. Mais le ministre parle tout de même d'un chiffre historique, résultat d'une politique volontariste, et il fait très clairement le lien avec les 80 km/h sur route.
Ces chiffres sont historiques, mais ils sont le résultat d'une politique volontariste. Et je voudrais évoquer le 80 km/h. Si on prend comme référence les 5 précédentes années avant la mise en place du 80 km/h, nous pouvons considérer que 336 vies ont été épargnées grâce au 80 km/h. 211 vies supplémentaires l'ont été en 2019 par rapport aux chiffres que nous connaissions pour 2018. Cela montre aussi l'importance de la décision que nous avons prise et montre aussi combien économiser quelques secondes sur le transport qui vous conduit de votre domicile à votre travail, c'est l'occasion, au fond, d'augmenter le risque de mort.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ce matin sur l'autoroute A10, pour le bilan 2019 sur les routes, a signalé que pour la première fois, on a le chiffre des trottinettes. 11 décès l'an dernier en trottinette. Mais je voulais parler de la voiture parce qu'évidemment, et on l'a entendu et on va le redire, vous avez eu aussi une carrière de pilote, de course. Comment vous roulez, vous, prudent, vous respectez les limitations?
Mais moi, c'est surtout en réaction à ces chiffres, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que si demain, on incite les gens à rouler à 20 km/h, il y aura encore moins de morts. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que c'est pas tant la vitesse qui importe, c'est la faculté des automobilistes à maîtriser leur voiture. Ce sont quand même des engins de mort, la preuve, puisqu'il y a ces chiffres-là malgré tout. Une voiture, c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en place des stages de conduite, de pilotage, de maîtrise de voiture. Je pense honnêtement que si on maintenait la vitesse à 80 ou 90, mais avec une formation plus aboutie, il y aurait aussi moins de morts sur les routes.
C'est-à-dire au moment de passer le permis, qu'on mette...
D'avoir une vraie formation. Ce sont des engins qui roulent à certaines vitesses. Vous pouvez mourir à 20 km/h avec une voiture. Voilà, la formation avant tout, je pense.
Merci. Alors Stéphane de Groot, on va aussi parler, je ne sais pas si le coronavirus vous fait peur.
Les coronas, oui, plus que le...
ça, c'est les bières. En tout cas, le deuxième avion affrété par le gouvernement pour rapatrier des ressortissants français, mais pas seulement d'ailleurs, en provenance de Wuhan, l'épidémie, l'épicentre de l'épidémie, a décollé la nuit dernière. C'est un A380. On ne connaît pas sa destination précise et il n'est pas prévu apparemment qu'il atterrisse à Paris. Les 180 personnes rapatriées hier ont de leur côté passé leur première nuit de confinement à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Ils vont devoir rester 14 jours dans ce centre de vacances, étroitement surveillé par les gendarmes. Même le survol de la zone est interdit par arrêté préfectoral. Hugo Hamelin.
Ouais, des avions et des drones, hein, c'est surtout une mesure pour éloigner les curieux et notamment les journalistes. Plus sérieusement, à l'intérieur du centre d'accueil, la nuit s'est bien passée. Les rapatriés étaient exténués après leur long périple. Ils sont en train de déjeuner en ce moment dans un grand réfectoire, assez grand me dit-on pour empêcher toute promiscuité. Au niveau médical, aucun cas suspect n'a été décelé dans la nuit. Les rapatriés n'ont toujours pas eu de tests médicaux poussés, juste des entretiens à l'oral, famille par famille, dans les chambres en cours de matinée. Une conciergerie va être mise en place cet après-midi pour permettre aux résidents de commander des magazines, de la nourriture et des activités vont être organisées pour la quinzaine d'enfants présents sur place. Vous voyez, c'est un petit peu ambiance colonie de vacances. Ils pourraient être rejoints à tous ces résidents rapidement par d'autres rapatriés puisque vous l'avez dit, un deuxième avion a décollé de Paris cette nuit. Il devrait ramener des Français mais aussi d'autres ressortissants européens dans les heures qui viennent.
Donc si je comprends bien, ils sont bien logés, mais c'est quand même pas l'ambiance club de vacances, Hugo. On peut pas aller jusque-là.
Non, non, mais l'ambiance est plutôt bonne. Personne n'est contaminé. Les deux cas suspects qui ont été rapatriés hier à l'hôpital de la Timone ont donc été jugés négatifs. Et voilà, on essaye de s'organiser dans ce club de vacances pour que ça se passe au mieux.
Merci Hugo Hamelin, correspondant d'RTL dans les Bouches-du-Rhône. Ça doit être bizarre d'ailleurs de se retrouver dans ces vacances.
Oui, confiné de force.
Obligatoire.
Oui, bizarre, oui.
Dans un centre de vacances en plein hiver, en même temps au bord de la mer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un numéro vert qui est à disposition pour toutes les questions non médicales liées au coronavirus, mis en place par le ministère de la Santé, le 0800 130 000. Et puis après, l'émotion médiatique, la justice pourrait décider de se saisir de l'affaire des accusations de viol et d'agression sexuelle portées par l'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol contre son ancien entraîneur Gilles Beyer, c'était au début des années 90. Hier, il a reconnu dans un communiqué des relations intimes inappropriées, tout en présentant ses excuses. Mais ce matin, le parquet de Paris déclare réfléchir à la possibilité d'ouvrir une enquête. On marque une courte pause et puis dans un instant, on se retrouve pour parler du Brexit. Parce que c'est fait, les Anglais sont partis les premiers.
Le journal inattendu de Stéphane De Groot avec Vincent Parisot sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Stéphane De Groot et Vincent Parisot.
Ah ça, c'est une histoire qui s'est donc terminée par un divorce après 47 ans de mariage. Ça arrive. Hein.
Oui, alors je sais pas moi, je sais pas s'il y a une personne aujourd'hui pertinente pour nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On entend tellement de commentaires aussi pertinents les uns que les autres ou au contraire tout à fait farfelu que je sais pas qui est autorisé à dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose.
En tout cas Boris Johnson lui il a dit que c'était une bonne chose hein,
mais il le disait pas avant, c'est-à-dire que c'est ça qui est le paradoxe de, ouais. de Johnson, c'est qu'avant il était partisan du maintien de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne.
Voilà, quand il était à Bruxelles, il s'est exprimé d'ailleurs à la télévision hier soir juste avant minuit, enfin c'était 11h pour les Britanniques, pour les assurer d'un destin meilleur hors de l'Europe. Brexit officialisé en grande pompe avec un compte à rebours géant sur la façade du 10 Downing Street. Effectivement, personne ne sait comment ça va se traduire, et notamment économiquement pour les Britanniques, pour les Européens. En revanche, on sait certaines choses. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Et vous savez si je vais pouvoir aller en vacances au Royaume-Uni comme avant?
Jusqu'au 1er janvier 2021, vous pouvez partir en vacances en Grande-Bretagne dans les mêmes conditions. Pas de demande de visa, votre carte d'identité ou passeport suffit. Après, c'est encore l'inconnu, mais sachez que Boris Johnson a prévenu la libre circulation des personnes dans 11 mois, c'est terminé. Donc, seuls pour l'instant peuvent se préparer les 300 000 Français qui vivent au Royaume-Uni. Ces derniers ont jusqu'au 30 juin 2021 pour obtenir leur nouveau statut de résident européen s'ils peuvent prouver qu'ils habitent là-bas depuis au moins 5 ans. Et attention, c'est aussi valable si vous vivez en Grande-Bretagne depuis 50 ans, que vos enfants, vos petits-enfants sont britanniques. Il faut bien vous enregistrer.
Merci Bénédicte Tassard. Ça va changer, voilà. Il faudra le savoir et préparer ses papiers avant d'aller en Grande-Bretagne. On l'a surnommée la reine du suspense. La romancière américaine Mary Higgins Clark est morte hier à l'âge de 92 ans. Vous avez lu du Mary Higgins Clark, comme la plupart des gens d'ailleurs.
Oui, quand j'étais ado, je lisais Mary Higgins Clark. Ce qui me perturbait, c'est que tous les titres se ressemblaient un peu, et qu'à l'arrivée, je ne savais plus si j'avais lu le nouveau, l'ancien. Dès que je commençais les premières pages, il y avait toujours la nuit du renard, c'était les mêmes trames. Et j'avais l'impression de retrouver en permanence le même livre. Mais elle était très forte, parce que effectivement, je considérais ça comme une œuvre majeure, alors que bon, c'est comme une littérature un peu légère, mais très efficace malgré tout.
Ah bah, plus qu'efficace. Aux États-Unis, elle a vendu plus de 100 millions de romans, rien qu'aux États-Unis. Hein. Évidemment, elle était devenue l'écrivaine la mieux payée au monde. La nuit du renard, c'est vraiment ce qui l'a fait décoller chez nous en France en 79.
Ah bon, parce qu'en plus, je sors ça comme ça par hasard. Mais...
Ah bah, c'est ça. C'est vraiment le premier roman à succès publié au départ en 77 aux États-Unis, en 79 en France par Albin Michel et le patron de la maison d'édition, Albin Michel, Francis Isménard. Oui, non seulement il était content, mais là, aujourd'hui, il se souvient d'un bon moment passé avec elle.
J'ai des souvenirs extrêmement émouvants. Son premier livre, c'était La nuit du renard. Et on lui avait loué une limousine, vous savez, comme les grandes stars qui faisaient 10 mètres de long. Elle était dans une joie. Elle adorait être traitée comme une star, finalement. Mais c'était une femme d'une simplicité extraordinaire. D'ailleurs, la France l'adorait. On lui a fait faire plusieurs fois le tour de France avec des signatures dans les librairies. Elle ne parlait pas un mot de français, mais les gens l'adoraient. Elle a été reconnue plus en France au début qu'aux États-Unis. La reine du suspense, c'était en France. Et puis c'est devenu aussi un succès international et aussi aux États-Unis. Mais proportionnellement, on a toujours vendu plus ses ouvrages en France qui ne se vendaient aux États-Unis.
Voilà, le patron de la maison d'édition historique de Marie Higgins Clark, donc Albin Michel.
Sa fille aussi écrit.
Oui, elle écrit.
Et elles ont écrit un roman à deux.
Oui, enfin, au moins un, effectivement.
Je crois que c'est sur Noël ou le Noël, le sapin cassé, ou je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir.
Le sapin cassé, remarquez, c'est une idée.
La nuit du sapin.
Le sport, il n'y a pas que le sport auto qui vous intéresse.
Si. Non, alors ça m'intéresse moins aujourd'hui, le sport auto, mais j'aime le tennis.
Tiens, tennis, vous savez qui a gagné l'Open d'Australie féminin?
Voilà.
Sofia Kenin, 21 ans, la jeune américaine, elle remporte l'Open d'Australie, son premier titre du Grand Chelem à la même occasion. Elle a battu l'Espagnol Muguruza en 3-7. Oui.
Puisqu'on en est au tennis, parce que je ne l'ai pas suivi, mais notre compatriote, Kim Clijsters, oui. Elle est revenue ou pas encore?
Je n'en sais rien.
Vous n'avez pas de nouvelles?
Non.
On n'a aucune nouvelle. Si Kim, tu nous entends, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ton retour sur les cours de tennis?
Je ne sais pas si elle a encore rejoué de manière officielle. Mais
elle comptait réintégrer le circuit.
C'est toujours très difficile de revenir au plus haut niveau.
C'est toujours pas facile, oui.
C'est comme si vous repreniez la course automobile, d'ailleurs.
Oui, mais là, je pense qu'on a besoin de moins de conditions physiques qu'il ne le faut pour le tennis. Surtout aujourd'hui, au tennis.
Deux infos, c'est du football. 22e journée de Ligue 1. Rennes, vainqueur de Nantes hier soir, consolide sa 3e place derrière Marseille, qui jouera dimanche soir à Bordeaux. Le Paris Saint-Germain, leader, accueille Montpellier à 17h30. Évidemment, on suivra tout cela dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France dès 19h30 avec Christian Olivier et dans le cadre du week-end du sport féminin, parce que c'est le week-end du sport féminin, y compris sur RTL, la journaliste Cilly Colmenares. Et maintenant,
le reportage inattendu.
Oui, c'est votre reportage inattendu. Vous avez souhaité qu'il soit réalisé au MIMA. Alors, c'est pas le MoMA.
Oui.
C'est le MIMA.
Je vous en prie.
Millennium Iconoclast Museum of Art, c'est ça?
Oui, exactement. J'ai voulu parler de ce musée parce que, d'abord, ce sont deux amis qui ont créé ce musée. Alice et Michel Delaunoy. Alice a une galerie à Bruxelles, une magnifique galerie. Et puis, ils ont réfléchi à l'opportunité de créer un lieu culturel assez singulier dans un quartier qui l'est tout autant, à Molenbeek, à Bruxelles, connu pour d'autres choses. Et ils ont installé ce musée qui aujourd'hui rencontre un succès assez formidable. Et je vous laisse découvrir par ce reportage la nature de cette chose.
Reportage inattendu signé Caroline N.
Nous sommes à Molenbeek, à quelques mètres à peine de la ville même de Bruxelles. Le canal fait office de frontière. Dans l'ancien quartier ouvrier, un bâtiment se démarque, le MIMA, Musée d'Art Contemporain. Impossible de louper cette immense bâtisse de briques rouges. Le musée a pris place dans une ancienne fabrique de bière. Ouvert en 2016, il est à l'initiative de 4 personnes, dont Raphaël Kreut.
Molenbeek est quand même fascinant. 25% de la population en dessous de 24 ans, c'est super jeune. Donc c'est vrai, il y a la pauvreté, il y a la jeunesse, du coup ça fait aussi un mélange très dynamique et donc c'est ici qu'appartient le futur de la ville.
Redorer l'image de Molenbeek, le MIMA y contribue, même si à la base ce n'est pas sa volonté. Alice Vandenabel, deuxième cofondatrice.
L'idée n'est pas là, c'est beaucoup plus simple que ça. On était censé ouvrir le jour des attentats et puis finalement on a dû postposer, etc. Raphaël et moi on habite ici depuis plus de 15 ans. Ce lieu est magnifique. On ne s'est pas posé une seule fois la question est-ce que c'est propice à un musée ou pas.
Donc ça a été vraiment une sorte de symbole, mais on ne l'a pas cherché, évidemment.
1000 mètres carrés, 3 étages, mais difficile de décrire les lieux. À chaque exposition, le musée se métamorphose.
Il se fait que d'expo en expo, on abat des murs, on construit des murs, on essaye de perdre un peu le visiteur à chaque expo.
Installer un musée dans une ancienne brasserie, c'est atypique, c'est ça qui a convaincu Alice et Raphaël, et une pièce en particulier au deuxième étage.
On l'a appelle la chapelle.
Et c'est en montant toutes ces échelles et en arrivant dans cette pièce-ci qu'on s'est dit, ok, bon, on est peut-être débile avec ce projet, mais en attendant, on ne peut pas passer à côté d'un bâtiment comme celui-ci. Donc c'est un peu grâce à cette salle que le musée existe.
Les artistes qui sont exposés ici sont choisis au coup de cœur et non à leur renommée.
Il n'y a pas de règle, je dirais, moi. C'est ici, et c'est au cas par cas en fonction des expos. Il faut dire que nous, on ne s'intéresse pas tellement au CV des artistes. C'est clair qu'on a envie aussi de donner la possibilité à des jeunes artistes de mettre le pied à l'étrier.
Cette volonté de découvrir des artistes, Alice et Raphaël l'ont également développée dans leur galerie située 700 mètres plus loin de l'autre côté du canal. Alice Galerie présente une à 20 expositions par an depuis 2004. Le MIMA a accueilli en près de 4 ans 200 000 visiteurs. Sa 8e exposition Zoo vient tout juste de démarrer.
Un reportage inattendu de Caroline N, notre correspondante à Bruxelles, qui me fait vous dire qu'elle a absolument adoré, qu'elle a découvert cet endroit et qu'elle a vraiment adoré ce lieu.
Eh ben j'en suis très heureux parce que c'est quand même rare de voir aujourd'hui des musées émerger. L'ouverture de musées, ça se fait pas aussi rapidement qu'un restaurant. Donc quand ça se produit, ça vaut la peine d'être remarqué.
Et puis d'emmener l'art à Molenbeek. Ça ne fait pas toujours bien parler de lui, ce quartier de Bruxelles.
Mais comme d'autres quartiers aux États-Unis, Brooklyn aussi, vous n'avez pas parlé de lui de manière très réjouissante. Et aujourd'hui, c'est un quartier hyper agréable, limite branché, carrément branché même. Et Molenbeek, c'est pareil, avec ce genre d'initiative.
Vous aviez une question tout à l'heure sur Kim Clijsters.
Oui, absolument.
Vous vouliez savoir
s'il était revenu dans le circuit.
Je vous présente Isabelle Langer, la spécialiste du tennis sur RTL.
C'est formidable. Dès qu'on parle de quelque chose, on a une spécialiste qui débarque.
Une spécialiste qui arrive dans le studio.
J'ai une question sur la pétanque après. Est-ce que quelqu'un pourrait venir
Elle revient, oui, en mars au Mexique. Après quand même plus de 8 ans d'absence, elle avait été en 2012. Deux enfants. Elle avait fait une première pause après la naissance de sa première fille en 2007. Elle était revenue. Elle avait gagné l'US Open. On lui souhaite la même réussite. C'est vraiment une super nana. Et puis en plus,
c'est difficile quand même de revenir.
C'est compliqué, mais elle avait prouvé que c'était possible une première fois. Après, elle n'a pas le même âge. Hein. Elle revient 12 ans après son premier arrêt. Donc...
Et vous avez suivi un peu les entraînements ou vous pensez qu'il y a une chance pour qu'elle...
Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même
aujourd'hui,
elle a plus de 30 ans et tout. On le voit avec Serena Williams, hein, depuis qu'elle a eu sa fille, elle n'a pas remporté un tournoi.
Oui, c'est pas tant sa capacité à elle, c'est surtout la capacité des nouvelles qui ont encore monté d'un cran.
Voilà, merci. On a répondu à votre question. Pour le spécialiste de la pétanque, ça sera après 13h, hein, d'autant que ça tombe très bien. Votre invité étant Andrea Menekian, peut-être qu'il joue à la pétanque, je ne sais pas. On va marquer une courte pause et puis quand même...
Oui, marquons une pause.
Oui, voilà, une courte.
Oui, s'il vous plaît.
Dans un instant, un amour de jeunesse. C'est la pièce de Stéphane De Groot, enfin avec Stéphane De Groot et Isabelle Gélinas.
Oui, c'est la pièce d'Ivan Calberac.
Voilà. Voilà.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu sur RTL avec Stéphane De Groot et Vincent Parisot.
Un amour de jeunesse, c'est donc cette pièce d'Ivan Calberac que vous jouez, Stéphane De Groot, au Théâtre de la Renaissance depuis quelques jours avec à vos côtés Isabelle Gélinas, Olivia Cotte, Nelly Clara, Sébastien Pierre. On fait un petit pitch rapide. Vous êtes Antoine, vous avez fait fortune dans l'Internet, vous êtes en couple avec une femme d'une famille d'aristo.
Oui.
Hein, et puis voilà, un jour, ça sonne à la porte et vous êtes rattrapé par votre passé.
Exactement, et c'est une femme qui vient réclamer des papiers pour pouvoir divorcer, donc je découvre que j'étais marié avec cette personne, parce que j'avais beaucoup fumé à l'époque.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait vous étiez parti en Inde avec elle et que vous aviez du coup depuis quelques petits trous dans le cerveau.
Oui, notamment, et donc le risque est qu'en voyant ma réussite, elle puisse réclamer la moitié de ma fortune, ce que m'apprend mon avocat, et donc pour éviter cela, je vais lui faire croire qu'en fait j'ai pas un rond. Et je vais emprunter l'appartement de ma femme, ma femme de ménage. Et montrer tous les attributs,
enfin, chinoise ou asiatique,
c'est ça,
cas.
Et montrer tous les attributs de la personne qui a vraiment pas un rond, pour éviter effectivement qu'elle puisse prétendre à la moitié d'une fortune éventuelle.
Alors on va pas rentrer dans le détail, mais pour garder sa fortune, Antoine va se lancer quand même dans une mise en scène assez incroyable, parfois même assez navrante, voire humiliante.
Oui.
Moi, j'ai une question à vous poser.
Je vous en prie, soyez
bienvenue. Je vais dévoiler un tout petit quelque chose, mais sur scène, vous mangez une boîte.
Une boîte particulière.
Une boîte particulière, oui. Qu'on donne à nos animaux préférés. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment ça ce que vous mangez sur scène?
Alors je ne mange pas la boîte parce que c'est du métal et c'est très peu digeste.
L'intérieur de la boîte. Hein.
Mais ça, je vous. Alors vous, vous teasez très bien le truc parce que je vous propose de venir le constater de visu en live.
Ouais. En tout cas, vous faites très bien le dégoût et on imagine effectivement
ce que ça peut ressentir. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est un repas très équilibré, hein, sur, si on y pense.
Un amour de jeunesse, ça renvoie aussi à nos idéaux de jeunesse qui sont plus tout à fait les mêmes lorsqu'on a réussi dans la vie. C'est un petit peu ça.
Mais c'est ce que je disais en introduction quand vous me demandiez de me présenter. Mmh. Je pense qu'on passe notre vie à devenir quelque chose, quelqu'un qui a été imaginé, pensé dans notre jeunesse. On court en permanence après notre jeunesse, après nos rêves d'enfant qu'on essaie de réaliser. On essaie aussi peut-être de maintenir une âme d'enfant en permanence.
Et le jeune Stéphane de Groot, qui, je l'ai lu, n'était pas très bien dans son corps, avait des petits problèmes d'élocution, etc. Aujourd'hui, s'il voyait le Stéphane de Groot d'aujourd'hui, il dirait... Chapeau.
Mais je dirais surtout que ça vaut la peine de croire en ses rêves parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, d'important, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, d'être fidèle à ce qu'on a voulu devenir. Et donc c'est toujours de l'amour, que ce soit vis-à-vis de soi. Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Mmh. Donc c'est important.
Tiens, un petit cadeau pour vous, mais aussi pour nous, évidemment.
Rêver un impossible rêve. Porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part.
Ça vous met toujours des frissons, ça.
Ah mais là, je suis... Vous m'avez cuit, là.
On est au taquet, là.
Oui.
C'est pas une idole, c'est presque un maître.
Mais c'est un maître à penser, surtout. Et à dépenser. Une énergie, une envie de vivre, de se lever, d'y aller, de se planter. Et quand on se plante, ben, ça repousse, donc c'est bien de se planter. c'est son discours, sa chanson, ce qu'il est lui, la manière dont il chantait, où il jouait sa vie à chaque mot. C'est un poète, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui a compté, qui compte beaucoup pour moi.
Aujourd'hui Braille. Encore.
Ah, absolument. Il a conditionné ma pensée, mon énergie, ma manière de voir les choses, ma manière d'avoir envie de vivre les choses.
Jacques Brel, hommage à Jacques Brel. Il est 13h sur RTL, alors on fait des pauses qui sont courtes ici. Donc on va en refaire une. Et puis dans un instant, bah, je pense aussi continuer à parler musique avec votre invité André Manoukian.
Avec joie.
Si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille.
Le journal inattendu de Stéphane de Groot avec Vincent Parisot sur RTL.
Il est 13h02.
Le journal inattendu de Stéphane de Groot.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et à la une de l'actualité, le bilan de la sécurité routière pour 2019, chiffre historiquement bas après une nouvelle légère baisse donc l'an dernier. 3239 tués sur les routes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en profite pour défendre les 80 km/h sur route. Le deuxième avion en destination de Wuhan a quitté la France ce matin. Il devrait ramener en France des ressortissants français. Mais on ne connaît pas encore la destination de l'appareil. Ce qui est certain, c'est que les 180 rapatriés hier ont passé leur première nuit à l'isolement dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Le Royaume-Uni hors d'Europe, c'est fait depuis minuit. Quels que soient les obstacles, nous allons réussir, assure Boris Johnson. Et puis la disparition de la reine du suspense, Mary Higgins Clark. Après avoir connu le succès tardivement, elle était devenue l'écrivaine la mieux payée au monde. Le football, Rennes a consolidé sa troisième place hier soir. Le PSG accueille Montpellier à 17h30. Les autres matchs de la soirée, ce soir dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France dès 19h30, avec aux commandes Christian Olivier et Cindy Colmenares, puisque c'est le week-end du sport féminin sur RTL. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que la jeune américaine Sophia Kenin, 21 ans, a remporté l'Open d'Australie. C'est son premier titre du Grand Chelem. On a gardé le meilleur pour la fin, parce que, voilà, Monsieur Météo est à nos côtés, c'est Stéphane de Groot.
Ah mon Dieu, le rite de la météo, et non la météorite, c'est amusant. La météo, cet après-midi, s'annonce grise. pluvieuse et venteuse, avec une touche ensoleillée. Oui, parce que le soleil est une boîte de rayons de couleurs. Touche ensoleillée vers la Méditerranée et le long de la façade. Ouest, c'est mieux. Ce sera la même chose à Bruxelles. De la grisaille, mais ça c'est un petit peu tous les jours à Bruxelles. De la pluie et du vent tout l'après-midi. À noter des chutes de neige, et non des chutes de rein, André Manoukian, dans les Alpes, au-delà de 2000 km. C'est hyper loin. Et un risque d'avalanche.
Non, ça doit être 2000 mètres.
Oui. Parce que 2000... J'ai envie de dire 2000 km. Parce que comme ça, c'est vraiment de l'au-delà. Et d'avalanche très élevé, avec la douceur qui se généralise. Les températures iront de 11 à 19 degrés entre Cherbourg et Perpignan. Il fera 14 degrés, notamment à Paris, à Lyon, à La Rochelle, à Bruxelles. Non, 12 degrés à Bruxelles, ce qui est 2 degrés de moins. Et 26 degrés dans ce studio, maintenant qu'André Manoukian nous a rejoint.
Et qui va nous rejoindre dans un instant,
ah oui,
hein, évidemment.
Maintenant, tu t'en vas. Tu refais une entrée.
Dans quelques secondes, dans ce journal inattendu de Stéphane de Groot. Oui, parce que d'abord, une petite pépite pour vous.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste.
Oui.
Et bien lui, c'est pareil, c'est juste.
Ça pourrait être du Stéphane de voilà, ça pourrait être du De Groot.
Alors, il m'a tout piqué, hein, Francis Weber. Non, alors, pour être très honnête, j'ai écrit un court-métrage que j'ai tourné avec François Berléand, et j'ai emprunté cette mécanique-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Danny Boone qui est un accusé dans un tribunal. François Berléand est le juge et demande à Danny Boone de se lever. Et levez-vous. Non. Et donc là-dessus, Danny se rassied. Levez-vous. Non. Et hop, il se rassied. Et donc, il demande son nom et il y a un quiproquo sur le... Voilà.
Stéphane de Groot est l'invité du journal inattendu. Un amour de jeunesse. Il est au théâtre de la Renaissance avec Isabelle Gélinas. Mais maintenant, comme vous l'avez dit et dévoilé, on accueille son invité, André Manoukian. André Manoukian, qui était d'ailleurs à votre place il y a un petit peu plus de 2 ans au moment de la sortie de son album Apatride, dont on entend un extrait. Vous vous en souvenez, André ?
Mais oui.
Vous étiez venu avec votre clavier, vous nous aviez montré beaucoup de choses. Pourquoi vous l'avez invité, Manoukian, Stéphane de Groot ?
Parce qu'il s'est invité dans ma vie, tout simplement. On s'est croisé une première fois et tout de suite. Vous savez, les êtres, c'est de la chimie. Et quand ça se passe bien, ça s'appelle de l'alchimie. Et il y a eu cette alchimie qui s'est reproduite à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois il y a une envie, il y a une tendresse, il y a une gourmandise. C'est un être que j'aime particulièrement parce que c'est un être, il est précieux, André. Son esprit est précieux, il est intelligent, il est malin, il a un talent de fou. Je suis très jaloux de sa capacité à jouer du piano. Ouais.
Pourquoi? Parce que vous en jouez aussi?
Non, j'en joue pas, j'aimerais en jouer. Mais j'ai envie de le prendre dans mes bras, c'est un nounours, c'est devenu mon ami et j'en suis très heureux.
Bonjour André Manoukian.
Bonjour les amis, quel accueil.
Ah oui, c'est toujours sympa ici. Vous nous avez dit, lorsqu'on vous a contacté pour venir, Stéphane de Groot, je lui dois beaucoup.
Tout en fait, non,
un peu. C'est vrai que vous lui devez quelque chose?
Une
chandelle?
C'était pour quelque chose d'assez précis.
Ah oui, oui, je sais de quoi il parle.
Voilà. En fait, Stéphane est curieux de tout. Il est très curieux de musique. Et de temps en temps, il me demande mon avis. Et puis je lui dis. Et là, il n'y a pas longtemps, il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et il me montre son téléphone. Et tout d'un coup, il me fait découvrir une chanteuse. Mais là, je reste dingue, quoi. Je reste la bouche ouverte comme ça. Mmh. Et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Comme on me demande souvent « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et là, c'est un petit peu quelqu'un que j'attendais depuis longtemps. Un style de voix, on va dire. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais Stéphane, mais donne-moi tout de suite ses coordonnées.
Et vous lui avez donné?
Oui, en fait, c'est quelqu'un que j'ai vu passer sur Instagram, que je connais pas.
Ouais.
Et j'ai écouté cette personne, c'est une jeune comédienne, et je lui ai demandé si elle chantait professionnellement. Je trouvais ça tellement fabuleux ce qu'elle faisait que j'ai transféré à André.
Son nom,
Elle
s'appelle Déborah Leclerc, voilà, elle a 20 ans, elle est dans une école de théâtre et elle a une voix un peu voilée, un peu cassée. Vous savez, ce genre de voix qu'on rencontre pas souvent et qui, moi, me font particulièrement transpirer de la moustache. Alors, au-delà de ça, je veux dire, ce qui est beau, c'est qu'avec Stéphane, on échange. C'est, j'allais dire, c'est une amitié récréation, c'est-à-dire qu'on est tous les deux pris dans des affres de vie, de voilà, de carrière, de théâtre. On partage les mêmes. Et puis quand on se retrouve, c'est la récré. On n'est plus dans ce. Il a le don, moi, de m'enlever tout de la tête. Je peux tout échanger avec lui et ça part. Et tout de suite, ça part en couille. Et surtout, il a ce don des mots qu'il a.
C'est incroyable. C'est un funambule des mots. Mais c'est vrai que, bon, je pense qu'on écoutera Raymond DeVos tout à l'heure.
Oui.
Mais voilà, ça fait partie de ces personnes qui nous emmènent dans un autre monde en une phrase.
Mais ça se traduit en musique avec du jazz, comme le pratique très bien André. Et moi, peut-être que je fais une forme de jazz des mots. Je me sens plus proche de l'univers musical quand je compose mes mots que du théâtre, en fait.
Parce qu'il travaille
avec le rythme.
Le rythme, les sons, ce jeu de mots qui fait, mais derrière chaque jeu de mots se cache une vérité, se cache un deuxième aspect, c'est le symbole, on sait très bien. Et tout à l'heure, quand il parlait d'alchimie entre nous, mais c'est lui l'alchimiste. Par exemple, un truc tout con, il tourne un film à Chamonix, moi j'habite à Chamonix. Donc du coup, je vais le voir le soir, on mange ensemble, on se marre, c'est super bien. Il me dit, t'habites où? Je lui dis, j'habite pas dans Chamonix même, j'habite avant un mot qui s'appelle les Bossons. B-O-2-S-O-N-S, il me dit, les beaux sons. Et ça fait 10 ans que j'habite dans l'endroit. Et c'est le mec qui me reconnecte avec
mais
ça.
C'est lacanien, ça.
Mais
hein,
c'est pas vrai. Mais c'est ça. Donc c'est un psychanalyste. Donc cet enfoiré. Il sait beaucoup plus. Faites gaffe. Parce que vous aussi, il rentre à l'intérieur de vous. Et il vous révèle des vérités que vous avez essayé d'enfouir.
On passerait boire tout à l'heure, Vincent.
Oui, bien sûr. Je m'allongerai sur le divan. Cet univers un peu foutraque, mais qui finalement est très organisé, c'est aussi celui de... C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, mais on voit qu'il y a une structure. Voilà.
C'est ça.
Et comme vous, j'allais dire comme un jazzman.
Exactement, c'est ça. Mais je veux dire, nos centres d'intérêt, cette manière de parler, ces discussions qu'on pourrait croire complètement décousues, mais pas du tout, où il y a une vraie quête et chacun se fait à un moment donné un peu le miroir de l'autre, et c'est tellement jouissif. Et ensemble, on a un rituel. J'ai une voisine qui est géniale, qui s'appelle Marie, moi j'habite au 9, elle habite au 11, on est dans un petit quartier, bon voilà, carreau du temple, on va dire que c'est un peu Boboland, mais de temps en temps on se réunit, et là c'est tellement... Ce métier c'est bizarre, vous pouvez pas vous faire des vrais potes dans ce métier.
Alors c'est un peu la question que j'allais vous poser, est-ce que c'est facile, parce que...
En tout cas toi t'es mon vrai pote, moi je suis pas ton vrai pote.
C'est pour ça que on en a pas beaucoup, quand vous en rencontrez un c'est rare. Et je vais vous dire pourquoi on n'en a pas beaucoup, parce que moi je fais souvent l'analogie avec les riders. Vous savez, les riders, ils montent, on est encordé pour monter tout en haut d'un glacier. Ouais. Ok, donc quand on monte, on est encordé. Puis quand on arrive là-haut, c'est chacun pour sa peau, parce que on risque sa peau. C'est un peu ça l'univers de la téloche. Mes copains jury de la Nouvelle Star et tout ça, c'est des potes, mais à un moment donné, c'est chacun pour sa peau, quoi. Bien et sûr. Dieu pour tous. Mmh. Et quand vous rencontrez un mec qui avec qui vous composez, et puis vous dites, lui, je peux même rester encordé quand on descend. Mais voilà.
Et puis là où on voit que c'est de l'amitié, c'est que vous savez très bien que dans ce métier, il est très difficile d'avoir un artiste qui vient lorsqu'il a rien à vendre. Lorsqu'il n'est pas en promo, en général, ils sont toujours aux abonnés absents.
Mais André, il a toujours quelque chose à acheter, surtout.
Non, parce que c'est André, bon, vous faites des concerts.
Fantastique. Les lundis au Théâtre de l'Œuvre, il raconte la musique avec des anecdotes, avec sa manière d'être, avec sa créativité, avec son clavier. J'ai été le voir 2 fois, pour vous dire. Je retournerai. C'est formidable. C'est une balade pendant 2 heures dans le monde de la musique. C'est un bonheur. Il y a eu
cette rencontre avec Mourad.
Le jeune pianiste incroyable.
Marseillais, pour son album Prémisse, on l'entend là, parce que c'est vous au piano. Je ne me trompe pas. C'est parce que vous n'avez pas de retour.
Si,
vous entendez ou vous entendez pas là?
Tous les deux, on a fait un 4 mains, en fait, oui. Alors ça aussi, c'est un petit gamin, 14 ans, qui écoute Chopin et puis il le rejoue. Et il a juste, ça fait même que 2 ans qu'il prend un peu des cours de piano, donc c'est une forme très rare de... On va dire, appelons ça une forme de, peut-être pas génie, si c'est un mot très fort, mais et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que quand il écoute Chopin, il le rejoue, mais à sa manière. Il n'est pas sur la partition. Il est sur l'oralité. C'est ce que faisait Chopin autrefois. C'est ce que faisaient les classiques.
Vous pouvez rester évidemment avec nous parce que moi quelque chose me dit que à 13h30 vous allez repartir l'un et l'autre bras dessus. Mais on va marquer une courte pause. On vous remercie évidemment André Manoukian d'être venu.
Moi j'aimerais que tu restes en fait. Je voudrais que tu restes. J'ai besoin de toi.
Tiens, on marque une pause et puis dans un instant on parle un petit peu de vous quand même Stéphane De Groot. À tout de suite.
Journal inattendu de Stéphane De Groot avec Vincent Parizeau sur RTL. Stéphane De Groot est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve, ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher.
C'est vrai que quand on écoute De Vos, on pense à vous, d'ailleurs, ou inversement. Alors,
hein. C'est très flatteur. C'est vrai, quand on l'écoute, on a arithmétique.
Parce que,
parce que c'est une logique, c'est une construction qui est proche de ça. Mais après...
Et vous aussi, il y a cet aspect un peu carré. C'est-à-dire.
Il y a toujours ce que disait André, l'absurde, tout ça, ça part de quelque chose de tout à fait vraisemblable, vrai, et c'est un prisme, c'est une manière de voir les choses. Mais la chose est là, sinon ça devient n'importe quoi, et c'est pas intéressant. Mmh. Et ici, il nous tient, en fait. Il y a le fil. S'il y a plus de fil, on coupe tout et on lâche les gens. Mmh. Et c'est pour ça que c'est formidable. C'est parce qu'on est dans sa culbute, on est dans sa construction qui se déconstruit. Mais si on déconstruit, ça veut dire qu'il y a eu une construction. Mmh. Mais là où De Vos est très très fort, c'est que c'est un clown. C'est un artiste complet. Il joue de la trompette, c'est un musicien, il est sur scène, il tient une salle, ce que je suis pas capable de faire. Donc moi, De Vos, c'est un monument. Ouais. C'est extraordinaire, De Vos.
Alors,
j'ai découvert tardivement. Au début, je comprenais pas ce qu'il disait, mais c'est vraiment bien plus tard que j'ai compris.
Vous compreniez pas ce qu'il disait?
Non,
que...
il y avait un gros monsieur qui joue de la trompette.
Il y en a qui ne vous comprennent pas, vous.
Ça viendra plus tard.
La semaine dernière, c'est François Berléand qui était assis à votre place. Oui. Et il vous a posé une question.
Stéphane De Groot, bonjour, c'est François Berléand. Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu vas pouvoir t'exprimer pour que les gens te comprennent? Voilà, alors j'espère que ça viendra en début d'émission et pas en fin, et que tu mettras un petit point d'honneur à ce que tu sois compréhensible des auditeurs. Je t'embrasse.
Mais le but n'est pas d'être compris, c'est d'être entendu. Je sais pas. En fait, pour vous dire, d'abord, je salue François Berléand que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Qui sera au théâtre d'ailleurs prochainement avec François Xavier de Maison, qui est mon ami également. Vous allez penser que j'ai beaucoup d'amis, mais en fait non. Là, j'ai fait le tour des amis du métier.
Non, mais là, vous en avez un vrai devant vous.
Oui, absolument.
Hein, avec André Manoukian.
Non, alors être compris, oui. Je ne fais pas les choses et on ne fait pas les choses dans ce métier. Pour être compris, c'est comprendre qui pourra. C'est pas du clientélisme. Un peintre, il fait pas un tableau pour plaire à celui qui va l'acheter. Il fait son tableau qui correspond à son état d'esprit. Après, on l'achète ou on l'achète pas. C'est mieux si on l'achète, mais c'est pas le but.
Et quelque chose me dit que même Scarlett Johansson, elle a dû acheter lorsque vous lui avez remis un César d'honneur.
Je suis très heureux et très ému ce soir d'être nommé pour le César du meilleur remettant. J'ai énormément travaillé pour ça. Enfant, déjà, j'ai beaucoup remis au lendemain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben voilà. Voilà. Je suis donneur de César, donc je suis César d'honneur. Donc la question, c'est qui me remet à Scarlett ?
Non. À Scarlett, on lui remet un César d'honneur en deux mots. Toi, tu remets le César du meilleur décor, si tu veux bien.
Ah ben justement. Le plus beau décor, c'est celui de Scarlett.
Non, Stéphane, décor en un mot.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok. I'm so sorry, Scarlett. Because everybody, very nice.
J'étais très impressionné d'être face à Scarlett Johansson.
Elle a beaucoup ri.
On m'a remis à Scarlett comme un colis.
Mais ça, c'était pas évident, surtout que c'était quand même il y a quelques années, vous n'aviez pas tout à fait la notoriété.
C'était le début du coup de projecteur, ouais. Et quand je me suis retrouvé au César devant toute la profession, je n'emmenais vraiment pas large. Ouais. C'était très impressionnant, et en même temps, c'était particulier parce que 20 ans auparavant, j'avais pris ma petite caméra, j'avais été filmer les Césars, je m'étais introduit dans les coulisses et j'ai filmé avec une caméra amateur toutes les coulisses en me faisant passer pour un journaliste. Et j'ai fait un montage de ça. Et c'est l'année où Gad Elmaleh présentait les Césars. Et j'ai des images absolument dingues que j'ai montrées à Alain Terzian récemment. Il hallucinait de voir ce que j'avais filmé. Un jour, parce qu'on m'a proposé de présenter les Césars, et je pense que je diffuserai ces images-là.
À cette occasion-là.
Oui, je pense que je ferai ça.
Ah bah là, on est preneur, bien évidemment. On va marquer une dernière pause avant votre surprise, puisqu'on vous a préparé une petite surprise. Mais avant cela, puisque vous nous avez dit tous les deux que vous aviez totalement flashé sur une jeune chanteuse française, Déborah Leclerc, ben tiens, cadeau. Oh, it's hard when you can't see through the fires. Not that I wanna get it, but I want to see how your mind works. Oh, it's hard when they don't know what they've done. Thinking it's better to leave, meaning that I'll have to move on. Voilà, elle s'appelle Déborah Leclerc, elle est passée sur RTL.
Elle est toute seule avec son piano dans sa chambre, ouais. Elle est passée sur RTL, yes,
ouais, c'est cool. Je vais vous dire pourquoi aussi je l'ai montré à André. Ouais. Moi, si je suis là et si j'ai le plaisir d'avoir un journal inattendu qui m'est consacré et tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est parce que j'ai des gens comme ça qui m'ont à un moment donné pris par la main et qui m'ont fait avancer. Ça a été des traits d'union, tout le temps. Et ici, c'est ce qui s'est passé en confiant Déborah à André entre de bonnes mains, entre de bonnes oreilles.
C'est évidemment ce qu'on leur souhaite. Une dernière pause, et puis dans un instant, surprise pour vous. Tout de suite.
Stéphane De Groot est l'invité du journal inattendu sur RTL.
C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ?
You're talking to me ? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me ?
Alors à qui est-ce que c'est si c'est pas à moi ? J'en vois pas d'autre que moi ici.
Ouais. Scène mythique, Taxi Drivers, De Niro, You're Talking to Me.
Ouais, De Niro. Je viens de voir la série, enfin le film là, de sur Netflix, Irishman. De Niro, Pacino. Enfin, on est au-delà du jeu. On est dans l'incarnation absolue.
On a un invité surprise au téléphone. Je suis sûr, certain que ça va vous faire plaisir. Vous savez pourquoi ?
Mais non, puisque c'est une surprise.
Je sais que ça va vous faire plaisir parce que fin décembre, vous avez posté sur Facebook une photo avec lui. Et vous avez marqué « Honneur et bonheur de rencontrer le meilleur ». Vous savez qui c'est ?
Allez-y.
Pierre Gagnaire. Bonjour Pierre Gagnaire.
Magnifique.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre Gagnaire, merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes à Bordeaux, dans votre restaurant, oui. la grande maison de Bernard Magret, c'est ça ?
Tout à fait, absolument. Tout à fait. Là, pour quelques jours, on a fait, je veux dire, en Palais Cité du Vin, qui était un endroit extraordinaire. Voilà, puis là, je suis en cuisine avec mes équipes, pour échanger, partager, voilà, comme d'habitude.
Honneur et bonheur de rencontrer le meilleur. Il est le meilleur, Pierre Gagnaire, à vos yeux ?
Mais il a, au-delà de son talent culinaire, je l'ai rencontré une fois, je le suis depuis un moment. Je trouve qu'avant tout, c'est un homme. Il a une humanité folle, vraiment. Pierre, je suis tellement heureux de vous entendre, que vous soyez là.
Bonjour Stéphane, mais moi aussi, ça me fait plaisir, parce qu'en fait, on ne se connaît pas, ma femme. On s'est rencontrés et on était intimidés l'un et l'autre, parce que moi, je suis fasciné par ce bonhomme. Hein.
C'est incroyable, quand vous l'entendez parler, vous êtes comme dans un rêve, il vous emmène dans son rêve, hein, c'est ça ?
Oui, et puis c'est un homme qui manie les mots, et moi les mots, c'est les mots qui m'ont construit. Moi, je suis quelqu'un de timide, de réservé, et c'est les mots qui m'ont donné...
Mais quand on a cette humanité-là, on la met dans ce qu'on fait. Et la nourriture, c'est de l'humain, c'est de l'artisanat. il faut recommencer tous les jours, comme au théâtre, c'est en permanence, et de l'entendre, de le voir, de le voir évoluer, j'ai le sentiment et la conviction que tous les jours il recommence, avec le risque d'échouer, même quand on a plein d'étoiles, on peut échouer tous les jours, et il a cette notion-là, et c'est ça que je trouve formidable chez lui.
Vous prenez un risque tous les jours, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit à l'instant, Pierre Gagnaire, et vous êtes aujourd'hui, voilà, au fourneau, dans votre restaurant.
Oui, ben moi, sur mon passeport, c'est marqué cuisinier. C'est ce que je fais de mieux. J'ai essayé de construire au fil du temps une espèce de bulle qui me permet de rester vraiment proche des produits, proche des hommes, parce qu'on fait un métier de sensibilité et un métier d'équipe. Et toute la difficulté de notre profession, c'est de faire Noël tous les jours, tous les soirs, tous les déjeuners. Ouais. Seul, on est absolument rien. En fait, c'est un théâtre, un restaurant, où l'éclairage doit être compte, la lumière, la qualité des fleurs, du costume, du sommelier, enfin, la propreté de l'assiette. Et c'est ces petits détails qui font qu'on arrive à offrir quelque chose qui a de la valeur. Mais c'est vrai que c'est un engagement total. On peut pas tricher, quoi. Voilà.
Alors, à l'évidence, vous ne trichez pas. C'est un théâtre, un restaurant. Hein, c'est magnifique.
Oui, on recommence sans cesse. Je suis très heureux de vous entendre, Pierre. Et ça me, voilà, je serais très heureux de vous revoir. Et c'est une belle surprise, effectivement, que vous m'avez fait là, d'être présent dans cette émission.
Et nous, c'est une belle surprise et un beau cadeau que vous nous avez fait.
Merci,
de venir,
Pierre,
dans ce journal inattendu. Stéphane de Groot, un amour de jeunesse au théâtre de la Renaissance avec Isabelle Gélinas, et puis on remercie André Manoukian qui...
Ouais, merci d'être venu, mon pote.
Voilà, et dans un instant sur RTL, ce sera Confidentiel consacré, alors je sais que ça va vous faire plaisir, André Manoukian, à Nina Simone.
Waouh.
Confidentiel, Jean-Alphonse Richard, dans un instant sur RTL. Je vous retrouve à 18h.
Merci beaucoup.
RTL, le journal inattendu.